Et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, alimentation générale. Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
La cerise sur le gâteau, c'est à 12h25 comme chaque dimanche en fin d'émission aujourd'hui.
Bien, je m'interroge, est-ce que le métier de paysan est un métier d'avenir ?
Vraie question. Matteo Caranta est avec nous, bonjour Matteo.
Bonjour.
La Madeleine aujourd'hui, le souvenir gustatif de quelle personnalité ?
Bien, cette semaine j'ai eu la chance de prendre un café avec le réalisateur du Petit Quinquin, Bruno Dumont.
À tout à l'heure, 12h15. Et pour notre plat du jour, nous allons parler d'un sujet dont personne ne parlait il y a 10 ans, mais qui est devenu très tendance. Peut-être depuis qu'on reparle de l'importance du fait maison et qu'on vante les vertus des produits simples et sains. Elle est le point commun entre un yaourt, des câpres, du vin blanc, une miche au levain et une choucroute. Choucroute qui, au passage, a permis aux marins du capitaine Cook au XVIIIe siècle d'échapper à la maladie du scorbut, alors fréquente sur les navires d'exploration. Alors, ne dites plus macération, maturation, affinage, séchage, boucanage. Dites fermentation, ce n'est plus un gros mot. Et pour parler de fermentation, là on entend le son de la fermentation du vin dans des cuves par exemple. Pour parler de fermentation et d'aliments fermentés, nous avons autour de la table les deux invités incontournables, j'ai envie de dire. Ensemble, ils ont écrit un livre malheureusement épuisé qui s'intitule « Terroir au pluriel, réflexion d'un cuisinier ». Il va falloir le réimprimer très vite. Yannick Alénaud est avec nous, bonjour.
Ravi d'être avec vous.
Mais c'est nous qui sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes l'un de nos plus grands chefs de cuisine, fermez vos oreilles. Vous êtes l'un des premiers à avoir remis la fermentation au goût du jour. Vous êtes à la tête d'une dizaine de restaurants dans le monde, dont Alénaud Paris, au pavillon Le Doyen, qui a 3 étoiles au guide Michelin. Et puis à côté de vous, Marie-Claire Frédéric. Bonjour madame.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste culinaire, vous êtes spécialiste des aliments fermentés. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages de référence sur le sujet, dont une histoire de la fermentation qui a paru sous le titre « Ni cru, ni cuit » chez Alma Éditeur. C'était en 2014. Vous tenez un blog aussi depuis 5 ans, qui a d'ailleurs le même nom, « Ni cru, ni cuit.com ». Et vous avez par ailleurs ouvert votre propre restaurant à Paris. Il s'appelle « Suri ». Et il est consacré à la fermentation naturelle. Alors, on va commencer par des choses très simples. Pour des néophytes tels que moi et certains, j'imagine, de nos auditrices et auditeurs, c'est quoi un aliment fermenté, Marie-Claire Frédéric ?
Alors, un aliment fermenté, c'est un aliment qui a été transformé par des micro-organismes. Voilà, tout simplement.
Type moisissures, bactéries, champignons.
Voilà, c'est ça, des levures, des moisissures, des bactéries.
Quand vous dites « il a été transformé », c'est d'un processus naturel ou par la main de l'homme ?
Alors, je vais dire les deux, mon général. Parce que d'abord, avant tout, c'est un processus naturel. Mais la main de l'homme est quand même nécessaire pour arriver à un résultat optimum. Parce que par exemple, si on laisse un litre de lait naturellement comme ça... tout seul, il va pas se transformer ni en camembert, ni en comté, ni en...
Il risque de tourner.
Il risque de tourner, voilà. Donc, le processus est quand même naturel, puisque ce sont les bactéries qui vont officier, mais l'homme est là pour diriger, on va dire,
la fermentation.
Contrôler la fermentation.
Parce que quand on regarde des synonymes de fermentation dans le dictionnaire, ce que je me suis amusée à faire, on trouve décomposition, faisandage, putréfaction. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi c'est associé autant aux moisis, aux pourris. Vous allez, je crois, Marie-Claire Frédéric, sortir un livre sur le pourri, donc vous êtes toutes disposées à répondre. Alors même que la fermentation, c'est une méthode de conservation.
Voilà.
Pourquoi c'est associé
au
pourri ?
La frontière entre le fermenté et le pourri, elle est vraiment très ténue, très, très mince. Et en fait, c'est uniquement une question de point de vue. Parce que, par exemple...
C'est souvent le cas pour beaucoup de choses.
Voilà, c'est vrai. Par exemple, le Nguyen Mam vietnamien. Il y a beaucoup d'Européens qui pensent que c'est du jus de poisson pourri. tout simplement. Et faites goûter un camembert à un Asiatique, il va trouver ça horrible, il va penser que c'est quelque chose de répugnant et de pourri, c'est du lait en décomposition. Voilà. Donc la différence, elle est uniquement une question de culture, question de point de vue.
Yannick Aleno, qu'est-ce que le cuisinier trouve d'intéressant dans la fermentation ?
Pour moi, c'était une notion de terroir, puisque quand j'ai acheté, en partenariat avec Michel Chapoutier, notre grand vigneron des Côtes-du-Rhône, une parcelle de vigne avec lui, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment perturbé, puisque à l'époque, je travaillais sur le terroir parisien, la réversion agricole en Île-de-France. J'ai beaucoup œuvré pour que les agriculteurs de notre environnement aient des lettres de noblesse. Il m'a dit, tu sais, seuls les produits fermentés peuvent parler du terroir. Ça m'a beaucoup perturbé au sens où pour moi le terroir était une zone géographique et non pas liée à un biotope naturel de la terre. Voilà, donc il a fallu que je comprenne la fermentation et c'est Marie-Claire Frédéric qui m'a éclairé sur le sujet.
Oui, mais alors vous pouvez nous éclairer à notre tour. En quoi la fermentation est-elle un révélateur de terroir ou d'identité du terroir?
Bah, c'est assez simple à comprendre. Vous prenez une grappe.
Ah, bah, non, c'est facile à dire. Vous avez réfléchi pendant un peu de temps.
C'est facile à comprendre au sens où quand, si vous allez vous promener sur une parcelle de vigne séparée par une route et vous goûtez le raisin cru, vous allez avoir du mal, je pense, très honnêtement, à trouver une différence de goût. Alors que quand vous commencez à faire le vin, donc fermenter le raisin, vous allez vous apercevoir que des notes différentes peuvent apparaître en fonction de la nature des sols. Et voilà ce que révèle la fermentation. Et c'est hyper intéressant quand on parle de gastronomie.
Marie-Claire Frédéric.
Oui, d'ailleurs, c'est pas uniquement vrai pour le raisin. On avait fait des expériences sur le céleri, par exemple.
Ah, un produit fétiche de Yannick Aleno. Voilà,
on avait fait fermenter des céleris de provenances différentes, de plusieurs provinces de France, fermenter de la même façon, au même endroit, pendant le même temps. Et à la dégustation, ça s'est avéré complètement différent. Certains céleris avaient des notes plus herbacées, d'autres un peu des notes d'agrumes. Enfin, c'était complètement différent. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose vraiment à creuser. Et c'est intéressant pour un cuisinier parce que ça permet de donner du goût au plat, aux sauces, tout ce qu'on veut, sans avoir à rajouter d'arômes, de choses comme ça. Enfin,
la fermentation, c'est un rehausseur de goût, Yannick Aleno ?
C'est un rehausseur, notamment. Enfin, moi, j'ai fait un process nouveau pour réaliser les sauces modernes. C'est-à-dire, c'est assez complexe, mais pour faire court, c'est la cuisson des éléments à la juste température. La juste température, c'est finalement la vraie définition du feu. Hein. Depuis qu'on a découvert le feu, c'était les mots qu'il fallait donner pour écrire et définir le feu. Donc, on parle du céleri tout à l'heure. Je le cuis à 83 degrés pendant 12 heures. Et là, c'est la cuisson la plus parfaite. Et ensuite, je fais une réduction, j'enlève l'eau, non pas par le feu, par évaporation, et je fais une évaporation par le froid, ce qu'on appelle la cryoconcentration. C'est-à-dire que l'eau cristallise et se débarrasse de la matière sèche, c'est ce qui nous intéresse. Et ça crée des longueurs en bouche exceptionnelles. Et quand là-dessus, vous rajoutez, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5% d'un produit fermenté, traité de la même façon, et que vous ajoutez à votre sauce, vous avez non seulement une longueur en bouche, mais en plus une onde gustative forte, puisque c'était une matière vivante, c'est une matière qui donne vraiment du ressort en bouche. Et quand on pratique la grande cuisine comme je la pratique, ces détails sont hyper importants.
Je disais tout à l'heure que la fermentation avait eu mauvaise presse, en tous les cas qu'elle avait disparu, alors que vous racontez dans votre histoire et civilisation de l'aliment fermenté, Marie-Claire Frédéric, que la fermentation, qui est cette méthode de conservation ancestrale, c'est précisément ancestral, c'est-à-dire que c'est quasiment vieux comme le monde. Pourquoi ça a disparu et pourquoi ça revient aujourd'hui à la mode, à votre avis ?
Alors, je pense que ça a disparu en fait assez récemment, après que Pasteur ait découvert les micro-organismes qui étaient responsables de la fermentation. Parce que le fait que ce soit des micro-organismes, je pense que ça a fait peur. Parce que les micro-organismes, effectivement, ils sont responsables également de maladies qui peuvent être très graves. Et donc, ensuite, on a commencé à tout apertiser, à tout stériliser. Il y a l'industrie agroalimentaire qui a pris un essor énorme, qui a un petit peu standardisé aussi les goûts. Et aujourd'hui, ça revient revient sur le devant de la scène parce que je pense que les gens veulent reprendre le contrôle de ce qu'ils mangent. Ils veulent redonner du goût et essayer d'éviter cette alimentation standardisée. Parce que la fermentation, c'est l'anti-uniformisation des goûts, l'anti-standardisation.
Est-ce que c'est pas aussi que ça a été remplacé par d'autres méthodes de conservation, la congélation,
la pertisation, tout ça. C'est plus facile d'ouvrir une boîte de petits pois ou d'aller
que de mettre dans un bocal avec son joint en caoutchouc
et d'attendre au moins 3 semaines, 1 mois que ça ferme.
Et bon, moi je pense que c'est une réponse écologique, la fermentation. On conserve des aliments sans avoir eu besoin d'énergie. Ça permet de vraiment d'avancer et je crois que ça va dans le sens aussi du moment que de faire en sorte qu'on vive mieux, on arrête d'abîmer cette planète et que l'on consomme différemment. Donc ça fait partie d'une rééducation, je crois, des gens que de retrouver ces réflexes complètement primitifs.
Pourquoi ça va dans le sens de l'environnement et de l'écologie plus qu'une autre méthode de conservation?
Claire le disait très bien, je crois qu'on n'a plus envie de manger des choses lyophilisées, on n'a plus envie d'entendre les gens nourrir des vaches avec de la farine animale. Ça suffit, donc il faut qu'on se mette tous en route pour trouver des solutions et donner aussi aux industriels l'envie d'arrêter parfois de faire n'importe quoi, parce que ça détruit complètement notre capital planète. Donc on est tous engagés là-dedans, et le fait de se retrouver avec des experts qui donnent des solutions aussi fiables permettent aux gens de voir les choses autrement.
Je faisais référence tout à l'heure à James Cook, ce navigateur du XVIIIe siècle, qui avec ses marins mangeait de la choucroute. Choucroute, c'est un plat fermenté. Et le plat fermenté qui était la choucroute leur a permis d'éviter le scorbut, maladie qu'on sait liée à l'absence à la carence en vitamine C. Et cette petite anecdote, Marie-Claire Frédéric, pour que vous nous disiez à quel point aussi un aliment fermenté est connu pour être bon pour la santé, à condition donc que la main de l'homme ait bien contrôlé le processus.
Voilà, c'est-à-dire que la fermentation rajoute des vitamines, rajoute plein d'éléments nutritionnellement intéressants, comme des acides organiques, des acides aminés, ça rajoute des vitamines, plein de bonnes choses.
Une choucroute, c'est combien de boîtes d'Enobiol?
Je crois que une seule portion de choucroute, c'est comme si vous preniez toute la boîte de
gélules. Ça fait trop, hein, faut pas en avoir trop non plus de vitamines C
au point de vue des microbiotes.
Yannick Aleno, vous êtes un chef cuisinier, donc je suppose que vous avez des cuisines de taille assez grande. Avoir des bocaux dans ces cuisines, c'est quand même pas permis à tout le monde, parce que il faut avoir de la place de les mettre, ces bocaux, quand même.
Il faut avoir de la place. En tout cas, moi, je trouve que ça nous amène à une relation avec le client particulière. Parce que quand on passe vers l'endroit où on stocke nos fermentations, les gens sont curieux et on les amène dans notre univers. C'est un avantage communicatif exceptionnel. Et les gens sont très intéressés, parce qu'ils en entendent parler de plus en plus. Ils veulent savoir comment faire. Ils veulent voir à quoi ça ressemble. Et je trouve ça formidable. Et je pense pas qu'il faille une place monumentale pour stocker des légumes. Évidemment, après, c'est des choix. On peut pas tout avoir à la maison, je suppose.
Plus ni moins que des boîtes de conserve, vous avez envie de nous dire.
Déjà, on gagne de la place, ouais, effectivement. Mais je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser, ne serait-ce que pour une découverte de goût particulière.
Avec la Frédéric.
Oui, nous c'est pareil, les bocaux, on en met quelques-uns dans la vitrine, et il y a énormément de gens qui passent dans la rue et qui s'arrêtent pour regarder. On a mis une petite notice explicative, et les gens s'arrêtent pour regarder, ça les intéresse vraiment.
Le nom de votre restaurant, Suri, est lié à la fermentation?
Le nom est lié à la fermentation, parce qu'on cherchait un nom qui fasse pas peur aux gens, parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, fermenter, ça peut évoquer putréfier, en décomposition, etc. Donc on a réfléchi, et le mot suri, c'est un très vieux mot en fait de la langue française. Suri, ça signifie acide ou aigre, mais sous l'effet d'une fermentation. C'est la même racine que le mot les harengs sort, par exemple, que le mot sauerkraut, choucroute. Le mot sauer, ça vient de la même racine que suri. C'est le mot aussi qui a donné le sérum en latin. Donc c'est une très vieille racine indo-européenne. Et donc j'ai choisi ce mot-là pour le restaurant.
Bon, on va quand même parler de cuisson, puisque vous avez commencé de le faire, Yannick Aleno, et qu'on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais on va laisser passer la madeleine, si vous le voulez bien. Vous écoutez France Culture, les bonnes choses. Matteo Caranta, Bruno Dumont donc.
Ben oui, j'ai rencontré le cinéaste Bruno Dumont. Alors comme toujours chez Bruno Dumont, on oscille entre l'austérité et la farce. Et comme toujours dans ses films, Petit Quinquin et Maloute inclus, ça se passe dans le nord de la France. Et ben c'est justement là, dans les sous-sols de Bailleul où il a grandi, que fermente sa madeleine souterraine.
Je suis né à Bailleul, donc dans une ville mais qui était au bord de la campagne. Et dans la campagne, ben, il y avait des champs, donc... Quand j'ai dit à mes parents que je voulais travailler, ils m'ont dit bah, « qu'est-ce que tu peux faire ? T'as qu'à aller travailler avec des agriculteurs ». Donc ils devaient connaître un paysan, ils leur ont demandé « est-ce que mon fils peut y aller ?». Donc j'étais pris par le paysan pour travailler pendant 3 semaines. Donc le premier travail que j'ai fait, c'est un travail à la ferme, et j'ai ramassé des pommes de terre. Donc je m'en souviens encore. Et ça m'avait plu, et j'avais repris même dans la vie de Jésus cette scène-là où il disait, le personnage disait, où sa mère l'engueulait pour lui dire qu'il devait aller aux patates. Donc aller aux patates, c'était justement aller ramasser les pommes de terre. Mais on les ramassait avec une machine hein, déjà, mais on surveillait que la machine fasse bien son travail. Je suis du Nord, moi, donc si vous voulez, donc je suis plutôt plongé dans la frite. Donc je connais bien la cuisson de la frite, il faut la cuire 2 fois en fait, pour qu'elle soit bonne. Il faut attendre qu'elle refroidisse, donc il y a un premier bain. Donc ça apprend la patience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la manger trop vite. Voilà, donc il faut d'abord l'éplucher. J'ai aussi repris ça dans Maloute, d'ailleurs, je vous en parle maintenant, je m'en souviens. Est-ce qu'il faut d'abord essuyer les pommes de terre avant de les éplucher ou les éplucher avant de les essuyer? Il y a débat sur cette question. Moi, je connais des gens qui commencent par laver les pommes de terre, sachant qu'ils vont les éplucher. Et moi, j'épluche la pomme de terre et je la lave ensuite. Ensuite, je la coupe et après, donc, je la plonge dans un bain et puis je la cuis pendant 5 minutes. Et ensuite, je la ressors et puis j'attends 5 minutes et je la replonge une deuxième fois. Normalement, c'est bon. C'est ma mère qui faisait les frites, donc c'est ma mère qui me l'a appris. Et moi, je pense qu'on devait manger quand même 3-4 frites par semaine quand même. Donc c'était quand même le légume favori. À la fois, il y a de l'huile, il y a une espèce de dorure externe. Donc il y a quelque chose d'un peu rude, d'un peu croquant. Il y a beaucoup de chaleur à l'intérieur, donc c'est une bonne petite synthèse de l'existence en général. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux aliments cuits, en fait. Moi, je suis plutôt cru, en fait. J'aime beaucoup le cru, mais je trouve que quand on mange une frite, on a à la fois le cuit et le cru. C'est-à-dire que le cœur de la pomme de terre, qui est encore chaud, il a quand même conservé quelque chose de cru. Et cet alliage des deux me plaît bien. Je trouve que c'est bien de réussir, dans la vie comme dans la cuisine, à allier le cru et le cuit.
Un peu comme vous, finalement, Yannick Aleno et Marie-Claire Frédéric. Ni cru, ni cuit, c'était le titre de cet ouvrage que vous avez signé, Marie-Claire Frédéric. Et j'aimerais justement qu'on en vienne à ce ni cru, ni cuit, ou et cru et cuit. La cuisine, c'est quand même l'art de passer du cru au cuit. Yannick Aleno. Et donc, l'on ne voit pas très bien tout de suite comme une évidence le lien qu'il peut y avoir entre la cuisine et la fermentation. Vous nous parliez de la cuisson, basse température, oui, en particulier tout à l'heure. Expliquez-nous ce lien que vous faites entre la cuisine et la fermentation.
Alors en fait, si on prend une choucroute qui est juste fermentée, le premier réflexe, je dirais, était de mettre une bouteille de vin dessus et de la faire bouillir pendant plusieurs minutes, voire quelques heures parfois. Et bon, évidemment, tout ça est très agressif sur la teneur du produit. C'est très difficile après d'avoir les subtilités du chou. En fait, la fermentation prépare l'aliment à la digestion aussi. Donc ça a quelque chose de très favorable pour l'assimilation des aliments. Et dans les grands restaurants, c'est un atout formidable parce que quand on fait des grandes dégustations de 14 ou 16 plats, d'être passé par le côté fermentaire sur certains sujets permet effectivement de sortir du repas avec beaucoup plus de légèreté. Donc on y trouve un intérêt fort.
Mais c'est presque une troisième voie entre le cru et le cuit, d'une certaine façon, la fermentation.
Moi, je suis un cuiseur, donc j'ai pour habitude de passer au feu les aliments qui ont parfois eu cette préparation préliminaire de fermentation, parce que j'estime que le travail n'est pas fini. En tout cas, on vient chercher d'un cuisinier une expérience, une rencontre entre des aliments, une grande sauce. Donc le fait de passer comme ça sous un feu de bois, il nous est arrivé de faire des betteraves qu'on a laissé fermenter pendant presque un an et on les a cuits ensuite au feu de bois. C'est juste exceptionnel avec un gibier qui va arriver sur les tables en ce moment. Donc ça permet d'avoir vraiment l'occasion de donner aux gens des goûts qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Et c'est pour ça qu'on vient en grand restaurant aussi. C'est pour avoir des choses qu'on ne peut pas faire à la maison.
Avec la Frédéric.
Oui, c'est tout à fait vrai. La fermentation, c'est... En fait, un aliment fermenté, c'est encore un produit brut. Donc ça, il a besoin d'être retravaillé, d'être cuisiné pour le déguster.
C'est une préparation.
C'est une préparation.
Et on a inventé des recettes incroyables avec Marie-Claire. On avait fait une bière d'aubergine.
Oui.
Conservée avec l'aubergine et le cèpe. C'est un mariage très heureux. Oui. Conservée avec une préparation de cèpe. Et on faisait partir les gens dans quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui est intéressant, je crois.
Quoi ? Est-ce que vous sauriez mettre des mots sur cette expérience-là ? Sur la différence du goût que vous obtenez avec la bière d'aubergine,
c'est une histoire
avec
de longueur d'onde du goût.
Est-ce que vous disiez tout à l'heure, Yannick Alénon ?
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On a l'habitude d'utiliser le mot umami pour désigner quelque chose qui est très bon au goût. Et je pense que la fermentation et l'umami sont très liés l'un à l'autre. Parce que justement, ça ne rajoute pas un goût supplémentaire. Ça va changer la tonalité du goût.
Voilà. Un exhausteur de goût.
Un exhausteur de goût, mais en même temps, ça change la couleur, ça change la tonalité. Je ne sais pas trop comment.
Marie-Claire parlait tout à l'heure du Nyokman, par exemple. Oui. On est français et fiers de l'être. On a une sauce, une préparation culinaire qui s'appelle, que tout le monde connaît, je crois, qui s'appelle l'œuf meurette. Bourgogne, l'œuf poché au vin rouge. Et l'œuf meurette vient d'un garum de poisson bleu, c'est un nyokman de poisson bleu des Romains qui s'appelait le muria, dans lequel les Romains avaient adjoint du vin rouge, des aromates et cuit des œufs. Et donc l'histoire, elle arrive jusque dans le monde contemporain, sauf qu'aujourd'hui, peu de cuisiniers savent ce genre d'histoire, ou peu de cuisinières ou de gens à la maison savent cette histoire. Donc le fait de partir et de monter une sauce sur ce nyokman de poisson bleu, pour le faire exemple, on fait de la sardine, des poissons communs, ça donne quelque chose de tout à fait remarquable.
Vous dites le peu de chefs le savent encore. Il y a quand même des choses qui arrivent jusqu'à nous, qui deviennent même peut-être à la mode. Je pense au kéfir, le kéfir qui est un lait fermenté du Caucase, ou le kombucha qui est une boisson acidulée mongole, les pickles, vous pouvez pas aller dans un restaurant aujourd'hui sans avoir les pickles, les olives, des cornichons. Tout ça, c'est des choses fermentées. Vous le faites d'ailleurs, Marie-Claire,
oui,
Frédéric,
oui,
vous faites des kéfirs de fruits.
Des kéfirs de fruits, kéfirs de lait, le kombucha, tout ça, nous le faisons, oui.
Et donc c'est facile à faire, c'est à portée de tout le monde de faire
de la fermentation. Oui, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
On met dans un bocal,
mais après, c'est-à-dire qu'après, il faut avoir une certaine sensibilité pour justement arriver à un bon résultat. Il faut être attentif, il faut bien conduire son produit.
C'est une matière vivante, donc il faut y faire attention.
Donc il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu, la température, même le temps qu'il fait, la pression atmosphérique, et le temps, la durée aussi. Donc il faut jouer sur tous ces paramètres pour arriver à faire un bon produit.
En quoi ça consiste, Yannick Alénon, si on prend, alors je m'adresse pas au chef 3 étoiles qui est devant moi, mais vraiment à l'homme qui cuisine au quotidien avec des produits fermentés, est-ce qu'encore une fois, c'est à la portée de tout le monde de faire un exercice de fermentation ? Est-ce que ça s'apprend facilement de fermenter ?
C'est hyper simple. Vraiment, c'est hyper simple. Il y a quelques règles très simples à savoir, mais globalement, de l'eau,
du sel.
Ah, vous regardez encore, Marie-Claire Frédéric, hein ?
Non, mais un légume sain, surtout, je crois qu'il faut aussi... choisir le meilleur du produit, et puis d'être patient, et au bout de 3 semaines, vous commencez déjà à avoir des résultats. Et il y a un truc à savoir simple, c'est que une fermentation loupée, c'est facile à reconnaître. Quand vous ouvrez le bocal, c'est insupportable. Ça sent tellement mauvais que vous avez même pas envie de le consommer. Donc vous ne risquez rien, en fait.
Oui, c'est facile à reconnaître quand c'est raté.
Tout à fait, tout à fait.
Vous restez avec nous, c'est l'heure d'écouter Pierre Hiverna pour la cerise sur le gâteau. Alors Pierre, on parle de fleurs, mais on parle aussi de plantes, d'herbes, de sol, de terre.
Et oui, et tout ça c'est un métier, Caroline. Et c'est le métier dont je voudrais vous parler, qui est peut-être en voie de disparition ou en plein développement, selon que l'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors commençons par quelques chiffres simples pour comprendre l'étendue du désastre. Voici 30 ans, la France comptait un peu plus d'1 million d'agriculteurs. Elle en compte aujourd'hui moins de 500 000. Il faut dire que embrasser la profession agricole, quand on sait que l'on va travailler 360 jours par an ans pour un salaire horaire ridicule, tout en dépendant des subventions européennes et avec un confrère qui se suicide tous les deux jours, ça ne fait pas forcément rêver la jeunesse sur Parcoursup. Résultat, dans les 10 ans à venir, un paysan sur deux va quitter le métier et se pose donc la question cruciale de qui va reprendre ses exploitations, le plus souvent transmises de parents à enfants depuis plusieurs générations. Et ici, la notion d'héritage ne passe pas prioritairement par la case du droit successoral, mais essentiellement par des forces plus difficiles à dominer, celles de l'affectif lié à la possession ancestrale de la terre. Dit autrement, comment accepter qu'un inconnu développe un projet autre que le vôtre sur des terres qui sont le produit de plusieurs vies ? Fort heureusement, une partie de la réponse existe bel et bien dans les statistiques, puisque l'on constate un regain d'installation de jeunes, mais surtout que le nombre de porteurs de ces nouveaux projets qui ne sont pas originairement du monde agricole représente désormais plus de 60% des effectifs.
Mais malgré tout, qui sont-ils ces jeunes qui restent motivés alors même que le métier perd son attractivité ?
Bien, Caroline, si j'en crois un livre et deux films documentaires qui sont récemment sortis, j'oserais dire que la femme est l'avenir des sols. J'ai d'abord été assez convaincu par les 10 parcours de 10 femmes, dont une éleveuse d'alpagas et productrice de laine, une maraîchère, une semencière, une vigneronne, une productrice de plantes médicinales et une fromagère, qui sont au cœur du livre « Néo-paysanne » paru aux éditions Rustica sous la houlette de l'une d'entre elles, Linda Bédoué. Idem pour « Réparer la terre », le film de Laureline Amagneux qui raconte comme un thriller l'histoire d'une assistante metteuse en scène dans le cinéma à Paris qui tourne la page à 32 ans pour devenir agricultrice bio près du Mans. Mais le plus pertinent est, à mon avis, Jeune bergère, où la réalisatrice Delphine Détry nous raconte sur 5 années l'histoire de Stéphanie, une autre parisienne, qui réinvente le métier de bergère en mettant l'accent sur la somme de bâtons dans les roues qu'elle doit surmonter. Bien sûr, d'abord parce que les anciennes générations essentiellement masculines comprennent mal la féminisation possible du métier, mais aussi parce que l'on n'accepte pas des méthodes d'élevage qui dévient des normes établies. Pourtant, Stéphanie constate qu'avec le départ des enfants d'agriculteurs vers les métiers de la ville, un changement de ton est très perceptible chez leurs parents, qui avouent désormais qu'au fond, mieux vaut laisser la terre à des femmes passionnées et enthousiastes qui la cultivent avec l'amour nécessaire que de l'abandonner aux spéculateurs. Marginal le phénomène ? Loin de là. Aujourd'hui, déjà 30% des chefs d'exploitation sont des chefs FES.
Merci Pierre Hiverna, c'était donc votre chronique à retrouver sur le site d'Alimentation Générale.
Bien sûr, et sur le site,
et
de,
sur
France
le site de France Culture. Merci à tous les
Merci
deux, Yannick Aleno et Marie-Claire Frédéric d'être venus ce midi. Je rappelle le titre du livre qui est encore disponible, signé Marie-Claire Frédéric, « Ni cru ni cuit, histoire et civilisation de l'aliment fermenté » chez Alma Éditeur. On peut aussi renvoyer au guide de la fermentation au Noma de René Redzebi, mais alors là c'est un livre énorme, très très grosse somme, qui est un guide de fermentation aux éditions du Chêne, comme quoi effectivement vous faites des petits, Yannick Aleno, en particulier chez René Redzepi. Merci beaucoup, merci. C'est ainsi que se termine cette émission. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Leduo, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Valentin Bobinet, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.